naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. C'est Amnesty International Évreux pour sa deuxième émission du mois de septembre, puisque, comme on vous l'avait annoncé il y a 15 jours, nous avons repris notre présence à l'antenne après une longue absence due aux contraintes de la pandémie et les contraintes sanitaires, enfin, etc., dont vous êtes tous et toutes au courant. Donc voilà, on vous retrouve deux fois par mois pour parler de l'actualité des droits humains, puisque c'est notre raison d'être à Amnesty International. Et pour faire un petit chapeau de l'introduction à cette émission, j'ai travaillé, je ne m'entends plus dans le casque, voilà si ça en marche. J'ai travaillé pour préparer l'émission et je suis tombé en travaillant sur le site d'Amnesty pour récupérer des informations, bien sûr. Je suis tombé sur cette phrase qui nous caractérise. Avec Amnesty, transformez votre indignation en action. Donc ça me paraît tout à fait, on en a déjà parlé, mais ça me paraît tout à fait d'actualité. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de sujets d'indignation à travers le monde. Et on vous en parle à chaque fois qu'on est à l'antenne. Mais ce que vous avez peut-être pu aussi constater, et Françoise va vous en parler juste après moi, c'est qu'avec Amnesty, on obtient aussi des résultats. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le fait de se mobiliser, de se grouper au travers d'une ONG comme Amnesty, on n'est pas les seuls, mais bien sûr, on parle de celle qu'on connaît le mieux, ça permet effectivement d'obtenir des choses et de faire bouger les autorités. Alors, on est tous d'accord, pour tous ceux qui nous écoutent, ça va jamais assez vite. Ça va jamais aussi bien qu'on voudrait. Ça va jamais, disons, on n'obtient jamais ou rarement les résultats complets qu'on aimerait espérer. Mais petit à petit, pierre après pierre et vie sauvée par vie sauvée, c'est ce qu'on a l'habitude de dire aussi à Amnesty, parce qu'on sauve la vie des gens, ça arrive régulièrement. Eh bien, effectivement, ça nous aide toujours à continuer à avancer et à réaliser que cette indignation mise en action, eh bien, c'est la seule façon de ne pas rester simplement en colère devant l'état du monde, mais d'en faire quelque chose. Voilà. Donc, on va vous en parler encore ce soir pendant une heure. Donc, surtout, ne quittez pas le 102.4 ou le 95.9 pour ceux qui habitent dans le sud de l'Eure. Et restez avec nous sur l'antenne de Principe Actif. Et ben, en parlant de choses qu'on obtient, il y a Françoise, je crois, qui doit déjà vous donner une information qui va dans ce sens-là.
Oui, eh bien, je suis contente de vous retrouver. Il y avait un moment que je n'avais pas pris l'antenne, vu ce qui s'est passé, bien sûr. Voilà, eh bien, je vous donne une bonne nouvelle. À savoir qu'au Bangladesh, les enfants Rohingyas auront accès à l'éducation. Le gouvernement du Bangladesh a annoncé qu'il offrirait une éducation aux 500 000 d'enfants réfugiés Rohingyas qui n'ont pas vu l'intérieur d'une salle de classe depuis qu'ils ont fui les crimes contre l'humanité au Myanmar en août 2017. Amnesty et d'autres organisations de défense des droits humains font campagne pour que près d'un 500 000 d'enfants dans les camps de réfugiés du Bangladesh puissent jouir du droit à l'éducation, mettant en garde contre les coups d'une génération perdue. Un certain nombre de sections ont participé à ce travail, notamment Amnesty Canada, Amnesty de Grande-Bretagne,
Amnesty UK, tu disais tout à l'heure.
C'est ça, voilà. Amnesty Australie et Amnesty USA. Alex Neve, secrétaire général d'AI Canada, a participé à des missions de recherche et de plaidoyer. Il s'agit d'un engagement important et très positif du gouvernement du Bangladesh, permettant aux enfants d'accéder à l'école et de poursuivre leurs rêves pour l'avenir. Ils ont déjà perdu 2 années académiques et ne peuvent plus se permettre de perdre du temps en dehors d'une salle de classe, a déclaré Saad Ahmadi, militant pour l'Asie du Sud à Amnesty International. Il est important que l'accès à une éducation appropriée, accréditée et de qualité soit étendu à tous les enfants de la région de Cox's Bazar, y compris les réfugiés Rohingyas et les communautés d'accueil. La communauté internationale a un rôle clé à jouer ici pour garantir au gouvernement du Bangladesh les ressources dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour ces enfants.
Oui, parce qu'on rappelle que le rôle des enfants, comme on dit toujours aussi, enfin comme dit la Convention des droits de l'enfant, c'est d'aller à l'école et pas, par exemple, de se servir de Kalachnikov dans des groupes d'enfants soldats. Voilà. Et excuse-moi, François, je te prends juste 10 secondes de ton temps. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de préciser.
Oui, t'as même pas dit bonjour.
Qu'il y avait aussi avec nous ce soir, et je suis très confus, Claire-Lise.
Oui, je vois bien que t'as pas voulu dire que j'étais là.
C'est ça, exactement.
Tu ah bah j'ai les croquettes.
Tu m'en voudras et t'auras le droit.
Bonjour.
Je crois, François, que tu avais une autre information qui devait...
Oui, alors je vais vous parler
qui en découle,
du changement climatique et des droits humains concernant les enfants aussi. Comment nos enfants seront impactés au cours de leur vie? Eh bien, avec la hausse des températures, les rendements agricoles vont chuter. On estime que ce sera de moins 5% à moins 30% d'ici à 2050. On peut s'attendre à des pénuries alimentaires, donc à des retards de croissance, l'affaiblissement du système immunitaire et des problèmes de développement à long terme. Un climat plus chaud et humide est propice à la propagation des maladies infectieuses. La dengue et le choléra progressent rapidement. J'ai un graphique là qui montre effectivement la progression. On estime qu'à partir de 2030, il y aura une augmentation de 60 000 décès par an dus à la malaria, c'est-à-dire le paludisme. Vers 2032, lorsque les enfants nés en 2019 commenceront leur adolescence, ils respireront un air plus toxique, d'où une diminution des fonctions pulmonaires et des risques accrus d'asthme et de maladies cardiovasculaires. Les inondations graves, sécheresses prolongées, feux de forêt ont déjà débuté, vous l'avez constaté cette année encore, aux États-Unis notamment. Dans le long article de The Lancet, il n'y a pas de dispersion géographique. Cet article est le résultat d'un travail de plusieurs dizaines de chercheurs qui balaient plusieurs domaines concernant la santé et quelques autres domaines de manière globale. Il ne donne par ailleurs aucune prospective. Toutes les études citées dans cet article concernent des données existantes et s'arrête à 2019, à chacun de prolonger les courbes selon son interprétation. Il est intéressant de voir combien, dans certains domaines tels que la malaria, les diarrhées, la malnutrition et quelques autres maladies infectieuses, les progrès ont été énormes durant la dernière décennie. Et ce sont ces progrès qui risquent d'être annulés à cause du dérèglement climatique. Selon l'OMS, entre 2030 et 2050, les changements climatiques pourraient causer environ 250 000 décès supplémentaires par an. Et si rien n'est fait, les progrès réalisés en matière de santé au cours des 50 dernières années pourraient être annulés d'ici à 2050. Voilà, concernant ce problème.
Et ça m'a fait penser, ce que vous disiez, François, ça m'a fait penser aussi à un article que j'ai récupéré sur le site d'Amnesty. Encore une fois, on ne peut que vous encourager à aller récupérer le maximum d'informations et de voir ce qu'on peut faire avec nous. C'est Amnesty avec un Y, AMNESTY.fr. Le site d'Amnesty France. Et donc, il y a un article qui est paru, justement, là, ces jours-ci, sur qui s'appelle « Climat, les jeunes mettent la pression aux États ». Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, parce qu'il est un peu long, mais qui fait un peu le point de l'actualité. Simplement un extrait, puisque c'est en écho à ce que vient de vous dire Françoise. L'article dit « 2020 devait être l'année de l'action climatique. Elle s'est muée en année de crise sanitaire avec l'arrivée du Covid-19. » L'impact de la pandémie ne saurait être sous-estimé et il faudra du temps pour s'en remettre. Mais l'inaction climatique ne doit pas être une compensation politique. Et en parlant de la mobilisation des jeunes, Amnesty dit « Ils marchent depuis plus d'un an et demi, mais le contexte sanitaire a poussé cette fois les jeunes d'Amnesty International à réaliser une vidéo pour fêter l'anniversaire de notre mobilisation pour le climat et pour appeler à respecter les droits humains impactés par la crise climatique ». Alors, petite parenthèse, si vous allez sur l'article en question qui s'appelle « Les jeunes mettent la pression aux États », vous pouvez effectivement regarder cette vidéo. Grâce à cette vidéo, les jeunes veulent amplifier le mouvement en faveur du respect des droits humains. Et après, l'article continue en disant « Dans le cadre de l'accord de Paris, les États doivent publier d'ici la fin de l'année leur plan climatique pour présenter des objectifs plus ambitieux et répondre aux défis posés par le changement climatique. Or, à ce jour, seulement 13 pays ont présenté des plans. La France doit faire parvenir sa contribution à l'Union européenne, mais cette dernière n'a toujours pas rendu sa copie, donc la France, pour 2020. En l'état actuel, les engagements de l'Union européenne sont insuffisants pour remplir les objectifs de l'accord de Paris. Il manque clairement d'ambition, de même que les plans d'un certain nombre de pays riches qui contribuent pourtant depuis longtemps au changement climatique et affichent les plus hauts niveaux d'émissions. D'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Donc voilà, c'était simplement un extrait de l'article qui montre qu'encore une fois, Si on ne fait pas pression, comme je disais au début, transformer son indignation en action, si on ne fait pas pression au niveau des autorités, des États, eh bien, ils s'empressent, même s'ils signent des accords, comme celui de Paris pour le climat, ils s'empressent effectivement, après, de ne quasiment rien faire. Donc, effectivement, c'est un problème tellement important, l'avenir des générations qui viennent, et pour nos enfants, que voilà, il faut continuer à nous soutenir et continuer à soutenir Amnesty qui réclame aussi que la France rende ce rapport qu'elle doit absolument rendre cette année et qu'ils disent quelles mesures elle prend pour lutter, en accord avec l'accord de Paris, pour lutter contre les bouleversements climatiques. Voilà. Il ne faut pas lâcher la pression parce que sinon, les autorités n'attendent que ça, qu'on lâche la pression pour surtout ne rien faire. Et je pense que ce n'est pas Claire Lys qui va contredire ce que je viens de dire, mais je pense qu'elle avait aussi quelques informations à vous donner. Je pense que ça concernait la Libye, c'est ça ?
Oui. Alors, je prends souvent la parole par rapport au dossier concernant les réfugiés et les migrants. Et là, c'est un dossier qui n'est pas nouveau, hein, mais qui malheureusement est toujours d'actualité, qui concerne la Libye, qui est l'enfer sur Terre pour les réfugiés et les migrants. Donc, homicides, viols, tortures, disparitions forcées. Les témoignages des violences infligées aux réfugiés et migrants en Libye que nous avons recueillis sont insoutenables. Lors de l'annonce du nouveau pacte Asile et Immigration, le 23 septembre 2020, la Commission européenne a encore martelé que la coopération avec les États tiers était une pierre angulaire de la politique européenne sur l'immigration. Or, l'Union européenne ne peut plus cautionner de tels agissements en continuant sa coopération avec la Libye. Le nouveau rapport d'Amnesty, alors le titre est en anglais, je vais vous passer ma mauvaise prononciation.
C'est pas grave.
Dresse un terrible constat et apporte de nouvelles preuves que les personnes réfugiées ou migrantes sont prises au piège dans un terrible cycle de violences en Libye. La liste de violences est insoutenable. Homicides, disparitions forcées, viols, travail forcé, enlèvement, détention arbitraire, hommes, femmes et enfants. Personne n'y échappe. Pendant 15 jours, ils nous ont frappés avec des barres de fer, ils nous ont frappés avec des tuyaux, ils nous ont frappés avec tout ce qu'ils trouvaient. Ils nous ont demandé de payer 6 000 dinars libéens par personne, adulte ou bébé. C'est libyen, j'ai mal prononcé. Hein. Des atrocités bien connues de l'Union européenne qui continuent pourtant de collaborer avec la Libye. L'Union européenne fournit des vedettes rapides et forme des gardes-côtes libyens pour intercepter et ramener en Libye toutes les personnes qui tentent de fuir le pays. Depuis 2016, 60 000 femmes, hommes et enfants ont ainsi été capturés en mer et débarqués en Libye. Des milliers de personnes disparaissent avoir été renvoyées en Libye. Et cela fait bien des années que nous démontrons qu'après avoir été débarquées en Libye, les personnes exilées se retrouvent systématiquement enfermées dans des centres de détention officiels. Aujourd'hui, nous constatons que des personnes sont aussi enfermées dans des lieux de détention non officiels, dont un centre appelé la manufacture de tabac en raison de son ancienne affectation, qui est placé sous le contrôle d'une milice. Nous ignorons ce que deviennent la plupart de ces personnes, ni si elles sont encore en vie. En détention, les exilés risquent la mort, le viol, la torture. Plusieurs dizaines de personnes réfugiées ou migrantes ont dit à Amnesty International avoir assisté à la mort de proches pendant leur détention dans des centres officiels ou dans des lieux où elles étaient retenues en captivité par des trafiquants. Ces décès faisaient suite à des violences par arme à feu, des actes de torture, des problèmes de malnutrition ou un manque de soins. Je vais vous lire un témoignage. La police nous a amenés en bus vers la prison Tariq el-Silka. Il y avait beaucoup de détenus à l'intérieur. L'air était si mauvais que ça rendait des gens malades. Nous avions des problèmes de santé et de nourriture. Il y avait un docteur, mais il ne faisait que donner des comprimés et puis il te laissait. J'ai essayé d'aider deux hommes qui avaient la tuberculose. Les deux sont morts quand ils dormaient sur mes genoux. Je m'occupais d'eux dans une pièce séparée pour les personnes malades. On était des amis, on était sur le bateau ensemble, témoigne Abdi, qui a fui la Somalie et qui a été détenu dans un centre de détention officiel. Dans ces centres de détention, les femmes et les filles subissent des viols et des violences sexuelles. Plusieurs femmes ont témoigné avoir été violées et forcées à se prostituer. Elles ont été libérées quand leurs familles ont payé des rançons. Pendant la nuit, les gardes vont dans la pièce des femmes et j'entendais des cris. « On sait ce qui se passe là-bas », dit un homme détenu dans un centre de rétention. Aucune échappatoire, hormis la mer et une mort probable. L'Union européenne justifie souvent le renvoi des personnes dans des pays tiers par l'engagement pris de réinstaller des réfugiés parmi les plus vulnérables. Mais les actuels programmes de réinstallation et d'évacuation depuis la Libye sont clairement insuffisants et loin d'être à la hauteur de la situation. Depuis 2017, seulement 5 709 personnes réfugiées en situation de vulnérabilité ont pu quitter la Libye. Là, maintenant, des réfugiés vont traverser la mer. Il n'y a ni évacuation, ni réinstallation. Les réfugiés en Libye sont en danger. Nous nous trouvons entre la vie et la mort. En raison des mesures sanitaires pour lutter contre le Covid, la situation s'est encore aggravée. Seules 297 personnes réfugiées ont été évacuées de Libye en 2020. Cela reflète le faible nombre de promesses de réinstallation faites par les pays qui accueillent des réfugiés, notamment des pays membres de l'Union européenne. Veille de Noël à bord du Sea-Watch 3, deux jours après avoir été secouru, Zizou présente un dessin sur le sauvetage. Le 22 décembre 2018, l'équipage du Sea-Watch a sauvé 33 personnes de la détresse en mer. Suite au renforcement des contrôles aux frontières, encouragé et soutenu par les États membres et les institutions de l'Union européenne, le nombre total de passages en provenance de la Libye a chuté depuis la mi-2017. Le nombre de noyades enregistrées a également baissé, mais le retrait des moyens de sauvetage européens augmente les risques que des naufrages invisibles se produisent sans être enregistrés. Le 17 août 2020, au moins 47 réfugiés et migrants, dont 5 enfants, sont morts lors de naufrages au large des côtes de Zuwara, à 100 km de Tripoli. Plusieurs naufrages ont eu lieu ce jour-là. Des survivants de l'un d'eux ont déclaré que des hommes armés avaient tiré des coups de feu sur un bateau transportant plus de 90 réfugiés et migrants, provoquant l'incendie du moteur et le chavirement du bateau. Certains des passagers se sont noyés, tandis que d'autres ont été brûlés. Malgré les risques mortels, les personnes interrogées nous ont déclaré avoir continué de tenter à plusieurs reprises de traverser la Méditerranée sur des embarcations peu solides. Si ces personnes prennent autant de risques, c'est parce qu'elles tentent de fuir les abus et les horribles violations des droits humains qu'elles subissent en Libye. Elles n'ont pas d'autre choix que de prendre la mer pour quitter cet enfer. Il n'existe aucune autre voie de sortie plus sûre et légale pour quitter le pays. Les personnes exilées, interceptées par les gardes-côtes libyens, alors qu'elles tentent de traverser la Méditerranée, sont renvoyées sur les côtes libyennes. Elles se retrouvent à nouveau confrontées au même cycle d'abus et de violences. Donc, compte tenu du fait que les autorités libyennes ne remédient toujours pas aux violences persistantes commises contre les réfugiés et les migrants, y compris par des agents gouvernementaux et par des miliciens affiliés au gouvernement, l'Union européenne et ses États doivent totalement revoir leur coopération avec les autorités libyennes. Aucune aide supplémentaire ne doit être fournie matériellement ou financièrement à la Libye tant que les terribles violences infligées aux réfugiés et migrants continuent. Pour l'heure, toute personne secourue ou interceptée en mer Méditerranée ne doit pas être envoyée en Libye. La Libye est aujourd'hui un enfer et non pas un pays sûr. Voilà, c'est la position d'Amnesty à ce jour.
Oui, oui, c'est, enfin, qu'on partage avec d'autres ONG, ça tombe aussi, enfin, je dirais, pour nous, ça tombe sous le sens, quoi, ce genre de déclaration. Mais bon, effectivement, c'est toujours le problème de convaincre les gens que oui, on peut faire des choses, comme je disais au début, on peut faire des choses par rapport à ça, et que si on ne les fait pas, eh ben, on laisse les gens, des milliers de gens, effectivement, dans les conditions, en Libye, dans les conditions que vous a décrites Claire Lise.
Il y a une très grande hypocrisie. Des organisations internationales, de l'Union européenne. On fait semblant qu'on signe des conventions, en fait, on sait très bien que sur le terrain, les pays qui, en plus, s'en mettent plein les poches, continuent quand même à agir de cette façon, et c'est pas normal, quoi.
L'argent qui est donné par l'Union européenne à la Libye, c'est pour qu'elle conserve les gens qui veulent traverser la Méditerranée, qu'elle les garde chez eux dans des conditions effectivement qui sont absolument intolérables. Donc il faut que ça s'arrête, il faut qu'on arrête de payer dans ces conditions-là, c'est clair, que l'Union européenne. Bon, on va faire une petite pause musicale et on va reprendre après. Et déjà, je vais vous, pour donner envie de nous écouter à la suite, mais ça, vous allez le faire, c'est que, contrairement à ce qu'a dit Claire Lise, la France est vraiment une terre d'accueil, malgré tout. Mais une terre d'accueil, on va vous dire à propos de quoi.
All I really want to do is maybe be friends with you. I ain't looking to compete with you, beat or cheat, mistreat you, simplify you or classify you, deny, defy or crucify.
Donc de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était cette Amnesty International pour la deuxième partie de son émission sur la défense des droits humains. On vient d'écouter un titre, alors je ne vais pas vous dire le titre parce qu'il est un peu compliqué à prononcer, mais c'est tiré du disque en soutien à Amnesty qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Chimes of Freedom. Voilà. Donc moi je vous disais juste avant la pause musicale que la France, est, contrairement à ce qu'on peut penser, est une terre d'accueil. Mais une terre d'accueil pour qui et pourquoi ? Eh bien, une terre d'accueil pour le commerce des armes. Et cet été, dans la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International. Encore une fois, on ne peut que vous engager à vous abonner. Vous allez sur le site amnesty.fr, vous tapez la chronique et vous avez très facilement le bulletin d'abonnement. Et donc, est paru un dossier. Alors, le dossier, il est très, très volumineux sur cette histoire de France, terre d'accueil des armes. Mais je vais simplement vous en faire un petit résumé. Alors ça commence comme ça. Commercy, commune de la Meuse, 6000 habitants, c'est Madeleine, son château Stanislas, ses soldats saoudiens. Bienvenue en région Grand Est, où tout a été mis au point pour recevoir, dans les conditions d'un 4 étoiles, des militaires du royaume Wahhabite. Wahhabite, c'est l'Arabie saoudite. Celui-là même qui mène depuis 2015 une guerre au Yémen contre les forces houthies soutenues par l'Iran. Plus de 5 ans après le début de l'offensive, ce conflit, qualifié par les Nations Unies de pire catastrophe humanitaire au monde, a fait plus de 230 000 morts. Ce qui n'a pas empêché notre pays d'accueillir sur son sol, à coup de subventions et d'aides de toutes sortes, une entreprise qui fabrique des armes impliquées dans ce conflit. Armes sur lesquelles des militaires saoudiens doivent venir se former. L'entreprise belge de John Cockerill devait, en échange, dit-on, booster l'économie locale. Alors bon, l'article précise dans quelles conditions effectivement et avec quelles subventions cette entreprise est venue s'installer donc à Commercy, dans l'est de la France. Et le maire de la commune en question précise quand même que contrairement à la réglementation, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour réaliser pour installer une activité sur le terrain. Donc déjà effectivement, il y avait mal donné par rapport à l'installation de cette entreprise. Mais bon, ça les a pas empêchés de faire ça. Alors, après, l'article continue. Pour compenser la peur... Alors, le grand argument qui a été donné, effectivement, par les officiels pour favoriser l'installation de cette entreprise, donc John Cockerill, Commercy, c'était de dire, effectivement, ça va créer beaucoup d'emplois et ça va booster l'économie locale. Alors, pour compenser la perte de 849 emplois que va entraîner la disparition du 8e régiment d'infanterie, je crois, de Commercy, l'État débloque, en juillet 2011, la somme exceptionnelle de 14,3 millions d'euros. Le contrat de développement économique, ou CDE, par le biais duquel vont être distribués ces millions, est signé à Commercy le 18 juillet 2011 en présence du ministre de la Défense, Gérard Longuet. Ce contrat de développement économique, qu'il dit avoir accéléré, le ministre. Parmi les heureux gagnants des millions octroyés, Cockerill, l'entreprise d'armement, se voit offrir 1 million d'euros grâce à ce contrat, alors même que selon la Cour des comptes, le plafond des aides est normalement fixé à 600 000 euros. Je précise effectivement que c'est de l'argent public, c'est de l'argent que donnent les contribuables français, l'argent de l'État. Pour les entreprises qui, comme elles, viennent s'installer sur un ancien site militaire, on déroule le tapis rouge. Selon les termes du contrat, Cockerill peut faire quelques économies. Toute exonération fiscale et de cotisation sociale. Totale exonération fiscale et de cotisation sociale pendant 3 ans, suivie d'une exonération partielle de 2 ans, prise en charge par l'État. Exonération de cotisation foncière pour les créations et extensions d'établissements situés dans des périmètres de zones de restructuration de la défense. Pour 5 ans. Le contrat permettrait également à l'entreprise d'être exonérée de taxes foncières sur 5 ans, ainsi que de cotisations patronales, d'assurance sociale et d'allocations familiales pendant 3 ans. Et je pense que s'il y a des employeurs parmi vous qui nous écoutent, ce genre d'exonération qui tombe à la file, ce n'est pas souvent qu'on doit leur proposer. A-t-elle bénéficié de toutes ces multiples exonérations ? Ni le ministre des Armées, ni l'URSSAF, ni Cockerill n'ont voulu nous le confirmer. C'est Amnesty qui parle. Quoi qu'il en soit, au total, les élus locaux et l'État ont décidé d'accorder plus de 2 millions d'euros d'argent public à l'entreprise belge, donc l'entreprise d'armement Cockerill qui a monté ce centre. Un peu plus tard, en avril 2013, Gérard Longuet, à nouveau, il n'était plus ministre des Armées, mais il était à nouveau sénateur de la Meuse, rejoint l'entreprise qu'il a soutenue en étant nommé au conseil d'administration de Cockerill. Comme c'est bizarre, on fait de la politique et après, on passe dans les conseils d'administration des entreprises qu'on a favorisées. En 2014, après des années de tractation, Cockerill signe officiellement le contrat tant convoité, donc le contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite, qui nécessitait une mise à disposition d'un campus, de ses locaux donc. Un contrat de sous-traitance avec la firme canadienne General Dynamics Land System Canada pour un montant de 4,5 milliards d'euros. Elle est chargée de livrer environ 700 tourelles canons pour équiper les 928 véhicules blindés légers canadiens envoyés à Riyad. À Riyad, c'est en Arabie Saoudite, donc au gouvernement saoudien. Un peu plus tard encore, le 16 mars 2015, l'Arabie Saoudite lance l'opération Tempête décisive à la tête d'une coalition de 8 pays arabes. Elle intervient au Yémen, pays frontalier du royaume, où s'affrontent soldats des forces armées saoudiennes et combattants houthis, une minorité chiite soutenue par l'Iran. Les ONG ne cesseront de dénoncer le risque de famine, le choléra, les armes, les missiles, les bombes utilisées pour cibler des hôpitaux, des marchés, des espaces publics, des bus transportant des enfants. Viser des bus transportant des enfants, c'est, je pense que Françoise ne me contredira pas, ça s'appelle un crime de guerre.
Oui, tout à fait.
L'argument de l'emploi, donc, qui avait été mis en avant par les politiques français pour favoriser cette installation de ce centre d'entraînement des militaires saoudiens, donc à Commercy, toujours dans la Meuse. L'argument de l'emploi, un grand classique mis en avant par les industriels, les acteurs locaux et ceux de l'État, pour justifier le commerce des armes. Le fait de permettre l'implantation d'une entreprise chargée de former des militaires engagés dans un conflit armé a-t-il été problématique pour les élus ? Ben, pas du tout. Ça n'a ému personne, commente Jean-Philippe Vautrin, élu commercien, ancien président de la communauté de communes. C'est un sujet qui n'a même pas été abordé. Je ne sais même pas s'ils ont fait le lien entre la guerre au Yémen et le problème d'accueillir des soldats saoudiens sur le sol français. Et c'est un élu qui parle. Présent le jour du vote, Jacqueline Fontaine, une ancienne élue Europe Écologie des Verts au Conseil régional de Lorraine, n'est pas, donc du vote pour débloquer les subventions, n'est pas tout à fait de cet avis. Elle assiste en ce 2 octobre 2015 à la première présentation du dossier soumis par Cockerill. C'était en comité réduit. Le projet était très clair. L'entreprise sollicitait la région pour obtenir une aide afin de construire l'hébergement pour des militaires saoudiens, leurs familles et une mosquée intégrée dans le centre afin de ne pas les mélanger à la population. Cockerill demandait alors 300 000 euros. Et surprise, lors du vote en assemblée plénière au conseil régional, on leur offrait royalement 600 000 euros. Là encore, c'est de notre argent dont on parle. Le dossier présenté aux élus par Cockerill avait été bien édulcoré. Comme c'est bizarre, effectivement. Alors, il y a quand même eu effectivement des contestations. Et dès le début de 2014, les décideurs proches du dossier nous avaient demandé de ne pas parler de Saoudiens, mais de clients. Effectivement, pour mieux faire passer la pilule. Bon, effectivement, le dossier continue comme ça. Donc, je regarde la pendule, c'est un peu trop long de tout vous lire. Simplement, en résumé, 5 ans plus tard, donc, par rapport aux emplois promis, on devait effectivement créer plus de 900, d'après les officiels, plus de 900 emplois devaient être créés avec cette implantation. 5 ans plus tard, on en est loin. Sur les 110 emplois directs promis, seuls 20 ont réellement été créés. Et un peu plus loin, effectivement, sur ces 900 emplois, au grand maximum, 438 ont été réalisés. Et encore, le chiffre est très probablement largement surévalué. Donc ce qui fait dire à Amnesty en conclusion du dossier, beaucoup d'argent dépensé, pas de militaires, peu d'emplois. Si le bilan n'est pas fameux pour la commune, il l'est indéniablement pour l'entreprise belge, donc Cockerill, cette fameuse entreprise qui met au point ses tourelles pour les chars saoudiens. De 647 millions d'euros en 2013, le chiffre d'affaires de Cockerill est passé à 1,3 milliard d'euros en 2015, un an après la signature du contrat avec la société d'armement canadienne qui chapeaute toute l'opération. Et de conclure, l'État français, alors le tapis rouge pour Cockerill, l'État français a-t-il lui pris des distances avec l'entreprise belge depuis que la guerre au Yémen a commencé ? Non plus. En 2016, lors du salon Eurosatory, c'est C'est un salon de l'armement qui a lieu tous les ans au Bourget à Paris. Un invité de marque est présent sur le stand Aguiris, société créée spécialement par Cockerill pour le contrat signé avec l'Arabie Saoudite afin de développer le premier simulateur embarqué de tourelles au monde. La personnalité qui s'installe aux commandes de la machine est le ministre de l'économie de l'époque, actuel président de la République, Emmanuel Macron. Ce sont sur ces appareils que les militaires saoudiens doivent s'entraîner. Et pour conclure dans l'hypocrisie générale, on précise évidemment que le 1er janvier dernier, donc 2020, le Premier ministre alors en fonction, Édouard Philippe, nommait le PDG du groupe d'armement Cockerill, qui s'appelle Bernard Serin, chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Donc après, bon, je vous renvoie à l'article, hein, parce qu'il y a aussi tout un... On n'aura pas le temps de le lire. Tout un descriptif aussi des pressions qui sont faites vis-à-vis des parlementaires qui ont quand même demandé des comptes au niveau de l'État français sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Il y en a eu, effectivement, qui se sont mobilisés. Mais l'article montre bien comment ces parlementaires, eh ben, on les a purement et simplement intimidés pour ne pas qu'ils creusent davantage le sujet en leur disant... Écoute, mon vieux ou ma vieille, tout simplement, si tu continues effectivement à poser des questions, eh ben, on ne te laissera plus dans les commissions où tu sièges, on ne tiendra plus compte des interpellations au gouvernement que tu peux déposer, enfin bref, on te mettra en sommeil, et de toute façon, l'armement, c'est top secret, donc en gros, tu ne sauras jamais rien. Voilà. Donc, je vous renvoie à cet article hein, qui s'appelle « La France, terre d'accueil des armes pour l'Arabie Saoudite ». Et ça nous renvoie aussi, et c'est, je vais m'arrêter là-dessus, ça nous renvoie à la campagne qui est toujours d'actualité. Il faut signer la pétition qui est toujours en ligne, sur justement, qui est adressée aux autorités françaises et plus spécialement à la présidence de la République, pour stopper les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. On vous rappelle que ces tourelles qui sont donc maintenant installées et dont l'apprentissage se fait à Comrie dans l'est de la France sont fournies aux chars qui servent au Yémen par l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc c'était mon quart d'heure aussi d'indignation, mais comme je disais au début, qu'il faut transformer en action. Je crois, je ne sais plus si c'était Françoise ou Claire-Lise.
C'est à moi, mais... Bon.
C'est à Françoise de parler, donc je t'en prie Françoise, vas-y.
Vas-y, suis le conducteur, je veux rester sage.
Enfin, une bonne nouvelle. Au Myanmar, démobilisation des enfants soldats enrôlés dans l'armée de l'État de Shan. L'État de Shan étant un État du Myanmar. Le Conseil de restauration de l'État de Shan est une organisation qui lutte depuis des dizaines d'années contre le pouvoir central de Birmanie. Hein, parce qu'en Birmanie, il y a plusieurs États, donc celui de Shan, qui est à la limite de la Chine et de la Thaïlande aussi. Après de longues négociations avec l'organisation non gouvernementale, l'appel de Genève, celui-ci a décidé de démobiliser les enfants soldats qui étaient dans ses rangs, ainsi que de ne plus enrôler de nouveaux enfants. Le Conseil de restauration de l'État de Shan, l'armée de l'État de Shan, s'est engagée à interdire l'utilisation d'enfants dans les hostilités et à veiller à ce que les enfants ne soient ni recrutés ni associés de force aux forces armées. Partie prenante de l'une des plus longues guerres civiles au monde dans l'État Shan, l'organisation travaille depuis plusieurs années avec l'appel de Genève à planifier la mise en œuvre concrète de cet engagement. Le général Yavk Serv et Alain Delétros, directeur général de l'appel de Genève, ont signé l'acte le 26 novembre 2019 à la suite de l'accord final sur les points clés de la mise en œuvre. En signant cet acte d'engagement, on renforce non seulement sa politique de ne pas utiliser ou recruter d'enfants de moins de 18 ans, mais il s'engage également à assurer la libération en toute sécurité de tous les enfants susceptibles d'être retrouvés dans leur rang. En vertu de l'acte d'engagement, ils s'engagent à protéger tous les enfants des effets des opérations militaires et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter la fourniture de l'aide humanitaire et des soins nécessaires à tous les enfants de l'État Shan. Voilà, je crois que c'est quand même un succès.
Oui, tout à fait. Et ça fait écho à ce que je viens de dire, parce que si la France aide l'Arabie Saoudite à tirer sur les enfants au Yémen, heureusement que dans d'autres pays, il se passe d'autres choses plus positives par rapport aux droits des enfants. Heureusement.
Voilà. À toi, Claire-Lise.
Eh bien, je vais profiter que Mina n'est pas là pour faire une chronique culturelle.
Eh bien,
voilà.
Oui, les absents ont toujours tort, donc
coucou
tant pis pour Mina.
Alors, je vais vous parler d'un film qui va sortir le 30 novembre 2020.
Donc demain. Non, le 30 septembre.
30 novembre.
30 septembre.
Le 30 septembre, excusez-moi. Ah,
c'est voilà. Demain, il sort demain.
Oui, c'est ça, il sort demain. Bon, je suis fatiguée.
Oui, c'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est pas grave, on aura compris.
Donc, je reprends. Je vais vous parler d'un film qui parle de l'usage légitime de la violence par l'État. Donc, ce film s'appelle « Un pays qui se tient sage ». Voilà, donc c'est un documentaire de David Dufresne qui invite les citoyens à interroger et confronter leur point de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'État. Donc ce film est soutenu par Amnesty International. Il y a énormément d'articles qui sortent dans la presse au sujet de ce documentaire et notamment... Et c'est pas courant. Un article que j'ai trouvé sur Internet, parce que ce film est aussi soutenu par la quinzaine des réalisateurs de Cannes 2020. Ah oui. Historiquement très attentive et particulièrement sensible au débat social et politique, la quinzaine des réalisateurs souhaite apporter son soutien au film de David Dufresne, qui parvient à élever et complexifier un débat nécessaire et dramatiquement contemporain. Avec un pays qui se tient sage, qui fait suite au roman « Dernière sommation » dans lequel il livrait son ressenti sur les violences policières durant le mouvement des Gilets jaunes, l'auteur et réalisateur David Dufresne continue de creuser la question du maintien de l'ordre et de ses dérives. Sous forme cette fois d'un débat collectif, il sonde cette citation du sociologue Max Weber, écrite en 1919, L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Une définition souvent dévoyée et raccourcie par nos gouvernants ces dernières années, elle a été tronquée encore tout récemment par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en « La police détient le monopole de la violence légitime ». Donc la charge des images. Tout sauf tiède, ce documentaire soutenu par la quinzaine des réalisateurs et par Amnesty est une claque à la double détente dont on sort à la fois secoué et grandi. Sa narration vous prend en tenaille entre deux tempos alternant constamment action et réflexion. D'une part, il nous plonge dans la mêlée sans filtre avec nombre d'images saisies au cœur de l'action, filmées au smartphone ou à la GoPro, souvent en caméra subjective, ces images sont particulièrement saisissantes. On y voit se déchaîner la brutalité des forces de l'ordre contre des manifestants certes révoltés, mais non armés. Pour qui a suivi sur Twitter le recensement au jour le jour par David Dufresne des violences policières durant le mouvement des Gilets jaunes en 2018 et 2019 et ce fameux allo@placebeauvau, ces images sont familières. Projetées sur grand écran, leur impact est amplifié et elles n'en sont que plus éprouvantes. On prend en pleine face non seulement cette violence, mais aussi son caractère aveugle, arbitraire, injuste, avec des personnes innocentes, éborgnées, mutilées et autant de vies brisées. Donc, alors que s'accroissent donc la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes font l'objet d'une répression de plus en plus brutale. Tous les pays du monde sont confrontés aux violences policières Pour les démocraties, c'est un enjeu devenu crucial à leur propre survie. Le film questionne cette définition de Max Weber, donc je reprends, l'État revendique le monopole de la violence physique légitime. Et il questionne, qu'est-ce que l'État ? La violence légitime, qu'est-ce que c'est ? Qui lui dispute son monopole ? Et qui en tient le récit ? Donc voilà, tout ça, c'est décliné tout au long de ce documentaire qui est vraiment très, très fort et que je vous invite à aller voir parce que apparemment c'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles qui sont parus dans le monde, dans les articles spécialisés du cinéma, mais aussi dans énormément de journaux qui ont été interpellés par ce documentaire. Et donc, c'est un film qui est soutenu par Amnesty International France.
Entre autres, avec d'autres ONG et d'autres médias aussi. Petite précision, on va aller rencontrer monsieur le directeur du cinéma Pathé pour essayer de faire une soirée spéciale autour de ce film. J'ai regardé sur les prévisions de programme, pour l'instant, il n'est pas annoncé à Évreux, mais on va essayer d'aller le rencontrer pour faire quelque chose. On vous tiendra bien sûr au courant dans nos prochaines émissions de radio très rapidement.
Alors, monsieur le directeur du cinéma, si tu nous écoutes, merci.
Voilà. On est en retard pour passer le deuxième intermède musical, mais on va vous le faire tout de suite.
sat together in the park. As the evening sky grew dark, she looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone. And where's she gone straight and washed out for a simple twist of fate? They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of saxophone somewhere far off played. She was walking by the arcade as light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of up and the room was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt an emptiness inside to which he just could not relate. Docks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time.
Donc, de retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est Amnesty International Évreux, bah pour la dernière partie de son émission, parce que en votre compagnie, le temps passe toujours très vite, donc voilà. Et je crois qu'il y a Françoise qui voulait vous demander d'agir avec nous.
Voilà. Je vais vous proposer une action urgente. Les actions urgentes, ce sont des sujets que l'on défend pour des thèmes ou des personnes. Enfin, voilà. Alors, en Slovaquie, l'accès à un avortement sûr est menacé. Le Parlement slovaque débat actuellement d'un projet de loi qui, s'il est adopté, opposera de nombreux obstacles aux femmes et aux jeunes filles souhaitant avorter, ainsi qu'à toute personne souhaitant interrompre sa grossesse, mettant en péril leur santé et leur bien-être, et bafouant les droits humains, leurs droits humains. S'il devait être adopté, ce projet de loi aurait de dangereux effets dissuasifs sur la pratique de l'avortement légal en Slovaquie et renforcerait la stigmatisation néfaste associée à l'avortement. Le Parlement slovaque doit le rejeter de toute urgence. Donc, il y a un appel qui est lancé, adressé à différentes personnalités en passant par l'ambassade. Donc, si vous souhaitez participer à cette action, vous envoyez vos coordonnées à amnesty.evreux@gmail.com en disant que vous souhaitez participer à cette action sur la Slovaquie et on vous donnera toute la marche à suivre pour faire ce travail. Merci beaucoup d'avance.
Voilà, encore une fois, il faut transformer son indignation en action, comme j'avais dit au début. On va toucher au bout de l'émission. Tu voulais peut-être dire un mot, Clarlis, sur
oui.
Un appel à témoignage.
Oui,
non,
alors...
On a encore 2-3 minutes. Voilà.
Donc, un appel à témoignage qui est lancé par Amnesty International sur le sujet des contrôles d'identité discriminatoires. Nous souhaitons entrer en contact avec des personnes appartenant à des groupes ethniques ou religieux minoritaires qui ont subi plusieurs contrôles d'identité au cours de leur vie et notamment récemment, sans aucun but légitime apparent. Nous recherchons prioritairement des personnes résidant de préférence ou ayant résidé en dehors de la région parisienne. Pourquoi ? Donc, les contrôles d'identité discriminatoires sont une pratique connue. Nous avons eu l'occasion récemment d'appeler les autorités françaises à y mettre un terme. Nous souhaitons pouvoir refléter la dimension nationale de cette pratique au travers de témoignages. Donc, si vous souhaitez, si vous avez des témoignages à apporter à Amnesty, vous pouvez faire part de votre témoignage et en savoir plus sur notre travail à ce sujet. Vous pouvez envoyer un message à JF Dubost, alors JFDUBOST, @amnesty.fr ou appeler le 06 76 73 36 27.
Voilà. Et ils peuvent aussi nous contacter s'ils veulent sur le mail de, du groupe, enfin du groupe d'Evreux, amnesty avec un Y à la fin, .evreux@gmail.com. Voilà, on leur enverra les coordonnées pour faire effectivement ces témoignages. C'est important ces témoignages parce que bon, je voulais vous parler, on n'aura pas le temps, je vous en parlerai la prochaine fois, d'un dossier qui est sorti ce matin, sur, publié par Amnesty International. On en a parlé à la radio, d'ailleurs je l'ai entendu, hein, ils ont présenté le dossier à la radio, sur une radio, pas Principe Actif, hein, sur une radio de Radio France pour être précis. Et ce dossier s'appelle « Comment des milliers de manifestants pacifiques ont été arbitrairement arrêtés et poursuivis ». Donc voilà, on vous en parlera la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais si vous allez sur le site d'Amnesty, vous pouvez déjà lire ce rapport et lire la présentation qui en est faite. Effectivement, il faut avoir présent à l'esprit que tout ce qui se passe sous raison de faire respecter la sécurité des gens et bien sûr avec l'épidémie de Covid qui complique tous les contacts humains, il faut bien se rendre compte effectivement que le droit de manifester en France comme ailleurs est régulièrement réduit et que ça fait partie de nos droits fondamentaux. Donc le rapport effectivement dénonce un certain nombre d'anomalies et ce qu'il faut aussi savoir, mais je vous en parlerai plus longuement, c'est que la France est en situation complètement contradictoire avec les droits humains internationaux qu'elle a pourtant signés. Donc voilà, on fera encore aussi des actions par rapport à ça. Notre actualité locale, avant de rendre l'antenne, il y a notre ami du laboratoire qui est déjà présent. Donc on le salue, et donc voilà, on va lui passer l'antenne avec beaucoup de plaisir. Et donc, nos actualités locales, voilà. On vous avait parlé à notre première émission du mois de septembre qu'on prévoyait de faire une foire aux livres au mois d'octobre, le 18, devant le local d'Amnesty, là, sur la place du Faubourg Saint-Léger. Malheureusement, les conditions sanitaires s'étant encore une fois durcies récemment, on n'était pas en mesure d'avoir une équipe suffisante pour faire respecter ce que nous demandait en fait la préfecture par rapport à cette manifestation publique. Donc une nouvelle fois, on reporte, on espère la faire au printemps, mais on est obligé de reporter cette foire aux livres. Et pourtant, les foires aux livres, c'est ce qui finance aussi le groupe. Donc pour nous, c'est important sur un double plan. Mais voilà, on n'a pas trop eu le choix. Donc on la reporte. Par contre, actualité locale, on va rencontrer monsieur le préfet. Amnesty Évreux est membre du collectif Solidarité Migrants. Et on va rencontrer monsieur le préfet le 7 octobre prochain pour lui parler, tous ensemble, avec d'autres associations, de la situation des migrants et des réfugiés à Évreux. Voilà, donc on a rendez-vous avec lui le 7 octobre.
On peut rappeler les associations,
oui,
donc la Ligue
sûr,
des droits de l'homme, sûr, le oui. Réseau d'éducation sans frontières oui. 27, il y a la CIMAD, il y a la Pastorale des migrants, il y a l'ANDA de Pont-Audemer, oui. Il y a le CFED Asti d'Évreux et Un Toit Sous la Main, l'association Un Toit Sous la Main qui aide aussi au logement des migrants. Donc il y a 9 associations en tout.
C'est ça.
J'en étais oublié.
L'association de Vernon aussi de...
Oui, l'ADEME
de Vernon.
Voilà. Oui, voilà.
Donc, et Amnesty Évreux. Donc voilà. Donc on va la rencontrer ensemble le 7 octobre. Et sinon, vous nous retrouvez sur l'antenne de Principe Actif le 13 octobre prochain, le mardi 13 octobre à 19h. Et pour ceux aussi qui sont au cadran jeudi 1er, donc très bientôt, après-demain, au cadran, on aura un stand avant le spectacle Une vie de Galilée. À l'invitation du Tangram, avec qui on fait beaucoup de collaborations. Donc on sera présent, vous pouvez venir nous rencontrer, signer des pétitions et discuter avec nous, en respectant les gestes barrières, comme on dit toujours. Mais vous pouvez nous retrouver donc dans le hall du cadran, avant le spectacle La Vie de Galilée, le jeudi 1er octobre, au cadran, donc comme on vous l'a dit. Et maintenant, on rend l'antenne pour le laboratoire. À bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience.